France Musique. Musicopolis. Conlon non caro, un temps mécanique. Vous aimeriez parfois avoir des super pouvoirs, courir 10 fois plus vite, sauter 10 fois plus haut, ou même jouer du piano 10 fois plus vite et produire des rythmes 10 fois plus compliqués. Pour la course et le saut, adressez-vous donc à Superwoman ou Superman. Mais pour le piano, j'ai l'homme qu'il vous faut, Conlon non caro. Mais qui peut jouer à cette vitesse avec des rythmes aussi compliqués? Si ce n'est quelqu'un, peut-être quelque chose, avec des doigts mécaniques, un robot pianiste, un pianiste bionique? Vous avez sans doute deviné qu'en effet, il n'y a là aucun être humain qui agit directement sur les touches. Pas de pianiste surhumain, non, mais tout simplement un piano mécanique. Alors, je vous dis qu'aucun pianiste en chair et en os n'agit directement sur les touches, c'est vrai. Mais c'est néanmoins une vraie personne qui est à l'origine de cette musique, qui l'a pensée et qui a perforé des mètres et des mètres de papier spécial. Glisser ensuite dans le ventre d'un piano mécanique qui ensuite joue exactement ce que le compositeur a conçu. Le compositeur qui a imaginé cette musique et l'a ensuite patiemment mise en forme s'appelle Conlon non caro, un véritable outsider, comme les États-Unis savent les générer. Quelqu'un qui compose dans son coin, quasiment sans contact avec le milieu musical, dont les œuvres ne sont pas jouées pendant la plus grande partie de sa vie, jusqu'au jour où il est découvert, où tout le monde sait ce Bobby, où on glose sur son importance dans l'histoire de la musique. Tenez, Ligeti par exemple, en 1981, écrit à propos de non caro, « Cette musique est la plus grande découverte depuis Ives et Webern ». La vie de Conlon non caro, 1912-1997, est assez extraordinaire. Je vous raconte beaucoup de vies de musiciens pleines d'aventures, mais celle de non caro est vraiment particulière. Tenez, on a tendance à mettre en avant dans la biographie des compositeurs la création de leurs œuvres. Ils sont présents, ils sont souvent leurs propres interprètes, ils viennent saluer, ils recueillent les avis de leurs auditeurs, ils rentrent chez eux, déprimés ou exaltés, les oreilles pleines de leur propre musique. Enfin, passer du stade de l'écrit, lu sur la page de papier à musique au stade de l'entendu. Eh bien voilà une expérience que Nan Caro a très rarement vécue. Pour ses premières œuvres, au début des années 40, les interprètes les trouvaient trop difficiles. Sa sonatine pour piano, par exemple. Ah, elle se joue aujourd'hui, elle a été enregistrée plusieurs fois, mais à quatre mains. La deuxième épouse de Nan Caro, Annette Margolis, raconte que la première fois qu'il a voulu donner un concert de ses œuvres à Mexico, où il vivait, il avait tout organisé, les programmes étaient imprimés, et au dernier moment, le pianiste s'est décommandé, affirmant que cette sonatine, de 1941, était trop difficile, trop compliquée rythmiquement pour être jouée par des mains humaines. C'est à partir de ce moment que Nan Caro s'est consacré à sa série d'études pour piano mécanique. Malgré la vitesse, on reconnaît bien ici un boogie-woogie. C'est que même un compositeur outsider comme Nan Caro n'est pas sorti de nulle part. Sa passion pour le piano mécanique date de son enfance où, comme dans beaucoup de maisons, l'instrument trônait dans le salon. Ses parents étaient très amateurs de musique, ils écoutaient beaucoup de chansons. Lui-même va commencer par apprendre la trompette dans sa petite ville natale de Texarkana, en Arkansas. Il jouera toutes sortes de répertoires, mais il aime particulièrement le jazz. À l'âge de 15 ans, Nancarrow quitte sa petite ville d'Arkansas. Il va étudier à Cincinnati d'abord, dans une école militaire. Son père veut que cet enfant indocile apprenne la discipline. Et puis, au conservatoire. À 17 ans, il entend le Sacre du printemps de Stravinsky, première découverte de la musique contemporaine et de ses nouveautés rythmiques. Voilà qui décide de sa vocation. Il sera compositeur. Il s'installe à Boston. Il étudie avec Nicholas Slonimsky, Roger Sessions, Walter Piston. Pas la composition, mais le contrepoint, l'art d'écrire des lignes musicales. Alors qu'il suit ses cours de musique à Boston en 1933, Conlon Nancarrow adhère au Parti communiste, comme beaucoup d'artistes états-uniens. Il fait ses armes comme chef d'orchestre, mais il abandonne très vite, il sent que ça n'est pas pour lui. Il part pour l'Europe, payant son voyage en jouant de la trompette dans un bateau. Il visite Londres, Paris, l'Autriche, l'Allemagne. Il se rend en Espagne pendant la guerre civile. Il rejoint une brigade internationale pour défendre la République. Revenu aux États-Unis, après avoir été blessé d'un éclat d'obus dans la nuque, il passe quelque temps à New York, où il rencontre quelques collègues compositeurs de sa génération, Copland, Carter, Cage. Inquiété par le gouvernement états-unien pour ses sympathies politiques, en 1940, il s'exile volontairement à Mexico. Il a 28 ans, il y passera ses 57 dernières années. C'est une fois installé à Mexico que Conlon Nancarrow va se consacrer à l'écriture de ses pièces pour piano mécanique. Depuis longtemps, il écrivait des rythmes complexes. Un journaliste lui demande un jour s'il écrit exprès pour que ce soit difficile. « Non, répond-il, je n'ai aucune obsession pour la difficulté. C'est juste que les idées me viennent à l'esprit, complexes du point de vue rythmique. Et certaines sont littéralement impossibles à jouer. » En quittant les États-Unis, Nancarrow avait emporté le livre de Henry Cowell, « Nouvelles ressources musicales », qui traitait justement de la complexité rythmique et mentionnait le piano mécanique comme moyen d'automatiser l'exécution. 1947, Nancarrow réussit à rentrer aux États-Unis, ce qui lui sera refusé ensuite pendant plus de 30 ans. À New York, il cherche une machine pour perforer les bandes de papier pour piano mécanique. Il trouve un artisan qui va lui en faire une quasiment sur mesure et qu'il rapporte à Mexico. Dans son studio de travail, il a installé sa machine à perforer et deux pianos reproducteurs munis du mécanisme en picot qui permet de jouer la musique une fois que les trous ont été pratiqués dans le papier. Les premières années, il commence par écrire sur du papier à musique avant de faire ses petits trous. Mais peu à peu, il écrit des canons rythmiques de plus en plus complexes et il doit d'abord tracer sur les bandes de papier des marques pour visualiser les relations de temps entre les lignes musicales. Une fois que c'est fait, il retranscrit ses marques sur du papier à musique et enfin il passe à l'écriture proprement dite, toujours sur papier à musique. Une fois cette étape réalisée, il lui reste encore à perforer ses bandes de papier. Alors une devinette. Combien de temps passe-t-il sur une pièce ? Réponse à la devinette, combien de temps pour perforer la bande de papier qui correspond à une pièce ? Plusieurs mois. Et oui, jusqu'à 8 mois pour une pièce complexe. Songez que chaque note fait l'objet d'un trou, dont la place est calculée au millimètre près. Cette étude numéro 25 de Conlon Nancarrow est réputée comme l'une des plus spectaculaires avec tous ses glissando. Au moment le plus complexe et tourbillonnant, on entend 1028 notes en 12 secondes. D'autres sont moins complexes, au début du moins. Annette Margolis, la deuxième épouse de Nancarrow, raconte qu'un jour, malgré son manque d'affection pour le concert, il a bien voulu faire entendre sa musique, dans une petite salle du Palais des Beaux-Arts de Mexico. Il loue donc un camion pour y apporter ses deux pianos mécaniques. Il fait son installation, les instruments sont accordés, bien préparés. Il a fait peu de publicité, mais la salle est pleine. Lorsque le concert a commencé, écrit Annette Margolis, il est arrivé sur la scène avec le premier rouleau de papier, l'a inséré dans l'un des pianos et il est sorti. Le piano a joué la musique. Il est revenu, enlevé le rouleau et en inséré un autre. Il a fait cela environ 25 fois. Et à chaque fois, il donnait le numéro de sa pièce sans faire plus de commentaires. Après chaque pièce, il y avait beaucoup d'applaudissements. Conlon saluait timidement et les applaudissements continuaient. Il saluait à nouveau et comme il n'y avait pas d'interprète vers qui il puisse se tourner, il désignait le piano mécanique. Bien sûr, ce geste provoquait le rire et l'amusement du public et un sourire ironique de Conlon. À la fin du concert, le public a encore beaucoup applaudi et crié de nombreux « Olé !» Pendant toutes les années où Conlon Nancarrow travaille sur ses études pour piano mécanique, même s'il est isolé à Mexico, il se tient au courant de l'actualité musicale. Il est abonné à des magazines musicaux, il commande des livres, des partitions, des disques, il a une bibliothèque impressionnante. Et puis des musiciens de passage viennent le voir. L'un d'eux, un jour, enregistre ses pianos, en amateur, et les fait entendre aux États-Unis. Puis, le producteur d'une maison de disques californienne vient, cette fois-ci de manière professionnelle, enregistrer toutes ses études. Nous sommes en 1977. Peu à peu, sa musique est entendue, appréciée. En 81, Ligeti déniche l'un de ses disques chez un disquaire parisien, ce qui lui fera dire, je le cite à nouveau, « C'est la plus grande découverte depuis Ives et Webern ». Et il ajoute « Tellement originale, agréable, parfaitement construite, mais également émouvante ». Pour moi, cette musique surpasse celle de n'importe quel compositeur vivant aujourd'hui. À partir du début des années 80, à près de 70 ans, va commencer une nouvelle vie pour Conlon Nancarrow. Reconnu par ses pairs, invité aux États-Unis, il a à présent un passeport mexicain, et en Europe. On joue sa musique, on lui commande de nouvelles pièces qui seront jouées par une nouvelle génération de musiciens excellents qui pourront venir à bout des difficultés proposées. On arrange aussi ses œuvres de piano mécanique pour ensemble instrumental. Malgré sa nouvelle célébrité, jusqu'au bout, il préférera rester tranquillement chez lui à composer plutôt que de participer à la fureur du monde. Transcription de l'étude pour piano mécanique numéro 3C de Conlon Nancarrow. L'ensemble moderne dirigé par Ingo Metzmacher. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Régis Nicolas pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.